La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Parole à Charles Péguy. Bonjour. Dans cette édition un peu particulière, puisqu'il s'agit de la Semaine Sainte, je voudrais donner la parole à Charles Péguy. Pourquoi ? Parce que Maritain a beaucoup reçu de Charles Péguy. Je vous renvoie à un livre admirable, Péguy, au porche de l'Église. Il s'agit de la relation entre Charles Péguy et Jacques Maritain, relation qui n'a pas été toujours à l'honneur de Jacques Maritain. L'excuse qu'on peut lui donner, c'est qu'en tant que jeune converti, ou récent converti, mais je rappelle 1906, son baptême, le 11 juin pour la Saint-Barnabé, son parrain est Léon Blois, Jacques Maritain a voulu déborder de zèle. Et il va aller trouver Péguy, demandant le baptême, les enfants, etc., etc. Et Péguy résiste. Péguy est un pur. Péguy est une âme d'exception. Et Maritain ne comprend pas forcément cette réticence. Après, on va dire ce quiproquo. Il y a une réconciliation au mois de juin 1914. Magnifique entrevue, magnifique rencontre. Et puis en septembre, vous connaissez, le pauvre Péguy est fauché à la guerre de 14-18. Il fait partie des premiers tués. Alors je voudrais lui donner la parole dans son œuvre poétique qui est faite, on va dire, sur la répétition. Une répétition qui est en hommage non seulement à la prose, mais à l'approfondissement. Et cette répétition, je pense qu'elle est une matrice pour la philosophie de Jacques Maritain. Alors, écoutons la parole de Péguy. J'ai extrait ce texte du Mystère des Saints Innocents. Je m'arrêterai de temps en temps pour un léger commentaire, le moins possible. Il s'agit de quoi ? Il s'agit du bourgeon. Le bourgeon au bout d'une branche. Qu'est-ce que c'est ? Une fragilité, c'est le mois d'avril. Et qu'est-ce que la branche ? Peut-être le Christ en croix. Or je vous le dis, dit Dieu, sans ce bourgeonnement de fin avril, sans ces milliers, sans cet unique petit bourgeonnement de l'espérance, qu'évidemment tout le monde peut casser, sans ce tendre bourgeon cotonneux, que le premier venu peut faire sauter de l'ongle, toute ma création ne serait que du bois mort. Et le bois mort sera jeté au feu. Et toute ma création ne serait qu'un immense cimetière. Or mon Fils le leur a dit, il faut laisser les morts ensevelir leurs morts. Hélas, mon Fils, hélas, mon Fils. Mon Fils qui sur la croix avait une peau sèche, comme une sèche écorce, une peau flétrie, une peau ridée, une peau tannée, une peau qui se fendait sous les clous. Mon Fils avait été un tendre enfant laiteux, une enfance, un bourgeonnement, une promesse, un engagement, un essai, une origine, un commencement de rédempteur, une espérance de salut, une espérance de rédemption. Ô jour, ô soir, ô nuit de l'ensevelissement, tombée de cette nuit que je ne reverrai jamais, ô nuit si douce au cœur par ce que tu accomplis, es-tu calme comme un baume. Nuit sur cette montagne et dans cette vallée, ô nuit, j'avais tant dit que je ne te verrai plus. Ô nuit, je te verrai dans mon éternité. Que ma volonté soit faite. Ô, ce fut cette fois-là que ma volonté fut faite. Nuit, je te vois encore. Trois grands gibets montaient et mon Fils au milieu. Une colline, une vallée. Ils étaient partis de cette ville que j'avais donnée à mon peuple. Ils étaient montés. Mon Fils entre ces deux voleurs. Une plaie au flanc. Deux plaies aux mains. Deux plaies aux pieds. Des plaies au front. Des femmes qui pleuraient tout debout. et cette tête penchée qui retombait sur le haut de la poitrine, et cette pauvre barbe sale, toute souillée de poussière et de sang, cette barbe rousse à deux pointes, et ses cheveux souillés, en quel désordre que j'eusse tant baisé, ses beaux cheveux roux, encore tout ensanglantés de la couronne d'épines, tout souillé, tout collé de caillots, tout était accompli. Il en avait trop supporté. Cette tête qui penchait, que j'eusse appuyée sur mon sein, cette épaule que j'eusse appuyée à mon épaule, et ce cœur ne battait plus, qui avait tant battu d'amour. Trois ou quatre femmes qui pleuraient tout debout. Des hommes, je ne me rappelle pas, je crois qu'il n'y en avait plus. Ils avaient peut-être trouvé que ça montait trop. Tout était fini, tout était consommé, c'était fini. Et les soldats s'en retournaient, et dans leurs épaules rondes, ils emportaient la force romaine. C'est alors, ô nuit, que tu vins. Ô nuit, la même qui vient tous les soirs, et qui était venue tant de fois depuis les ténèbres premières, la même qui était venue sur l'autel fumant d'Abel, et sur le cadavre d'Abel, sur ce corps déchiré, sur le premier assassinat du monde. Ô nuit, la même, tu vins sur le corps lacéré, sur le premier, sur le plus grand assassinat du monde. C'est alors, ô nuit, que tu vins. La même qui était venue sur tant de crimes depuis le commencement du monde, et sur tant de souillures et sur tant d'amertume, et sur cette mer d'ingratitude, la même tu vins sur mon deuil, et sur cette colline, et sur cette vallée de ma désolation, c'est alors, ô nuit, que tu vins. Ô nuit, faudra-t-il donc, faudra-t-il que mon paradis ne soit qu'une grande nuit de clarté qui tombera sur les péchés du monde ? Sera-ce alors, ô nuit, que tu viendras ? C'est alors, ô nuit, que tu vins. Et seul tu pus finir, seul tu pus accomplir ce jour entre les jours. Comme tu accomplis ce jour, ô nuit, accompliras-tu le monde. Et mon paradis sera-t-il une grande nuit de lumière ? Et tout ce que je pourrais offrir dans mon offrande, et moi aussi dans mon offertoire, à tant de martyrs et à tant de bourreaux, à tant d'âmes et à tant de corps, à tant de purs et à tant d'impurs, à tant de pécheurs et à tant de saints, à tant de fidèles et à tant de pénitents, et à tant de peines et à tant de deuils, et à tant de larmes et à tant de plaies, et à tant de sang, et à tant de cœurs qui auront tant battu d'amour, de haine, et à tant de cœurs qui auront tant saigné d'amour, de haine, sera-t-il dit qu'il faut que ce soit, qu'il faut que je leur offre, et qu'ils ne demanderont que cela, qu'ils ne voudront que de cela, qu'ils n'auront de goût que pour cela, sur ces souillures, et sur tant d'amertume, et sur cette mer immense d'ingratitude, la longue retombée d'une nuit éternelle. Ô nuit, tu n'avais pas eu besoin d'aller demander la permission à Pilate. C'est pourquoi je t'aime et te salue. Et entre toutes, je te glorifie, et entre toutes, tu me glorifies, et tu me fais honneur et gloire, car tu obtiens quelquefois ce qu'il y a de plus difficile au monde, le désistement de l'homme, l'abandonnement de l'homme entre mes mains. Je connais bien l'homme, c'est moi qui l'ai fait. C'est un drôle d'être, car en lui joue cette liberté qui est le mystère des mystères. On peut encore lui demander beaucoup. Il n'est pas trop mauvais. Il ne faut pas dire qu'il est mauvais. Quand on sait le prendre, on peut encore lui demander beaucoup, lui faire rendre beaucoup. Et Dieu sait si ma grâce sait le prendre, si avec ma grâce je sais le prendre, si ma grâce est insidieuse, habile comme un voleur, et comme un homme qui chasse le renard. Je sais le prendre, c'est mon métier. Et cette liberté même est ma création. On peut lui demander beaucoup de cœur, beaucoup de charité, beaucoup de sacrifices. Il a beaucoup de foi et beaucoup de charité. Mais ce qu'on ne peut pas lui demander, sacre Dieu, c'est un peu d'espérance. Un peu de confiance, quoi, un peu de détente, un peu de remise, un peu d'abandonnement dans mes mains, un peu de désistement. Il se raidit tout le temps. Or toi, ma fille, la nuit, tu réussis quelquefois. Tu obtiens quelquefois cela de l'homme rebelle. Qu'il consente, ce monsieur, qu'il se rende un peu à moi, qu'il détende un peu ses pauvres membres là, sur un lit de repos, qu'il détende un peu sur un lit de repos son cœur endolori, que sa tête surtout ne marche plus. Elle ne marche que trop, sa tête, et il croit que c'est du travail, que sa tête marche comme ça, et ses pensées, non, pour ce qu'il appelle ses pensées, que ses idées ne marchent plus et ne se battent plus dans sa tête et ne grelottent plus comme des grains de calebasse, comme un grelot dans une courge vide. Quand on voit ce que c'est, que ce qu'il appelle ses idées, pauvre être, je n'aime pas, dit Dieu, l'homme qui ne dort pas, celui qui brûle dans son lit d'inquiétude et de fièvre. Je suis partisan, dit Dieu, que tous les soirs on fasse son examen de conscience, c'est un bon exercice. Mais enfin, il ne faut pas s'en torturer au point d'en perdre le sommeil. À cette heure-là, la journée est faite et bien faite. Il n'y a plus à la refaire, il n'y a plus à y revenir. Ces péchés qui vous font tant de peine, mon garçon, eh bien, c'était bien simple, mon ami. Il ne fallait pas les commettre. À l'heure où tu pouvais encore ne pas les commettre, à présent, c'est fait, va, dors. Demain, tu ne recommenceras plus. Mais celui qui le soir, en se couchant, fait des plans pour le lendemain, celui-là, je ne l'aime pas, dit Dieu. Le sot, est-ce qu'il sait seulement comment demain sera fait? Est-ce qu'il connaît seulement la couleur du temps? Il ferait mieux de faire sa prière. Je n'ai jamais refusé le pain du lendemain. Celui qui est dans ma main comme le bâton dans la main du voyageur, celui-là m'est agréable, dit Dieu. Celui qui est posé dans mon bras comme un nourrisson qui rit et qui ne s'occupe de rien et qui voit le monde dans ses yeux de sa mère et de sa nourrice et qui ne le voit et ne le regarde que là, celui-là m'est agréable, dit Dieu. Mais celui qui fait des combinaisons, celui qui en lui-même, pour demain, dans sa tête, travaille comme un mercenaire, travaille affreusement comme un esclave qui tourne une roue éternelle, et entre nous, comme un imbécile, eh bien, celui-là ne m'est pas agréable du tout, dit Dieu. Celui qui s'abandonne, je l'aime. Celui qui ne s'abandonne pas, je ne l'aime pas. C'est pourtant simple. Celui qui s'abandonne ne s'abandonne pas et il est le seul qui ne s'abandonne pas. Car celui qui ne s'abandonne pas s'abandonne et il est le seul qui s'abandonne. Or toi, ma fille la nuit, ma fille au grand manteau, ma fille au manteau d'argent, tu es la seule qui vint quelquefois se rebelle et qui fait plier cette nuque dure. C'est alors, ô nuit, que tu viens. Et ce que tu as fait une fois, tu le fais toutes les fois. Et ce que tu as fait un jour, tu le fais tous les jours. Comme tu es tombé un soir, ainsi tu tombes tous les soirs. Ce que tu as fait pour mon fils fait homme, ô grande charitable, tu le fais pour tous les hommes, ses frères. Tu les ensevelis dans le silence et l'ombre, et dans le salutaire oubli de la mortelle inquiétude du jour. Ce que tu as fait une fois pour mon fils fait homme, ce que tu as fait un soir entre les soirs, ô nuit, tu le refais tous les soirs pour le dernier des hommes. C'est alors ô nuit que tu viens, tant il est vrai, tant il est réel, qu'il était devenu l'un d'eux, et qu'il s'était lié à leur sort mortel, et qu'il était devenu l'un d'eux, pour ainsi dire, au hasard, et qu'il s'était fait l'un d'eux sans aucune limitation ni mesure. Car avant cette perpétuelle, cette imparfaite, cette perpétuellement imparfaite imitation de Jésus-Christ dont il parle toujours, il y a eu cette très parfaite imitation de l'homme par Jésus-Christ, cette inexorable imitation par Jésus-Christ de la misère mortelle et de la condition de l'homme. On parle toujours, dit Dieu, de l'imitation de Jésus-Christ, qui est l'imitation, la fidèle imitation de mon Fils par les hommes. Et j'en ai connu et j'en connaîtrai des imitations si fidèles, dit Dieu, et si approchées, que moi-même j'en demeure saisi d'admiration et de respect. Mais enfin, il ne faut pas oublier que mon Fils avait commencé par cette singulière imitation de l'homme, singulièrement fidèle, qui, elle, fut poussée jusqu'à l'identité parfaite, quand si fidèlement, si parfaitement, il revêtit le sort mortel, quand si fidèlement, si parfaitement, il imita de naître et de souffrir et de vivre et de mourir. Je suis honnête homme, dit Dieu, et j'agis toujours droitement. Je suis l'honneur même et la droiture et l'honnêteté. Croyez-vous que je vais m'amuser à vous faire des feintes comme un bretteur? Toute la malice que j'ai, c'est la malice de ma grâce. Et la feinte est la ruse de ma grâce, qui si souvent joue avec le pécheur pour son salut, pour l'empêcher de pécher, qui séduit le pécheur pour le sauver. Mais croyez-vous que moi, Dieu, je vais m'amuser à leur faire des misères? Et ce que ne ferait pas un honnête homme? Je suis bon chrétien, dit Dieu. Croyez-vous que je vais m'amuser à les surprendre comme un assassin de nuit? Je suis leur père, dit Dieu. Notre Père qui êtes aux cieux. Mon Fils le leur a assez dit que je suis leur Père. Je suis leur juge. Mon Fils le leur a dit, je suis aussi leur Père. Je suis surtout leur Père. Enfin, je suis leur Père. Celui qui est Père est surtout Père. Notre Père qui êtes aux cieux, celui qui a été une fois Père ne peut plus être que Père. Ils sont les frères de mon Fils, ils sont mes enfants. Je suis leur Père. Notre Père qui êtes aux cieux, il a bien su ce qu'il faisait ce jour-là, mon Fils qui les aimait tant, qui a vécu parmi eux, qui était un comme eux, qui allait comme eux, qui parlait comme eux, qui vivait comme eux, qui souffrit comme eux, qui mourut comme eux, et qui les aime tant les ayant connus, qui a rapporté dans le ciel un certain goût de l'homme, un certain goût de la terre. Mon Fils qui les a tant aimés, qui les aime éternellement dans le ciel, il a bien su ce qu'il faisait ce jour-là. Mon Fils qui les aime tant, quand il a mis cette barrière entre eux et moi, notre Père, qui êtes aux cieux, ces trois ou quatre mots. Cette barrière que ma colère et peut-être ma justice ne franchira jamais. Heureux celui qui s'endort sous la protection de l'avancée de ces trois ou quatre mots, ces mots qui marchent devant toute prière, comme les mains du suppliant marchent devant sa face, comme les deux mains jointes du suppliant s'avancent devant sa face et les larmes de sa face. Ces trois ou quatre mots qui me vainquent, moi, l'invincible, et qu'ils font marcher devant leur détresse comme deux mains jointes invincibles. Ces trois ou quatre mots qui avancent comme un bel éperon devant un pauvre navire. Et à présent, il faut que je les juge comme un père. Pour ce que ça peut juger un père, un homme avait deux fils. Pour ce que c'est capable de juger, un homme avait deux fils, on sait assez comment un père juge. Il y a un exemple connu, on sait assez comment le père a jugé le fils qui était parti et qui est revenu. C'est encore le père qui pleurait le plus. Voilà ce que mon fils leur a conté. Mon fils leur a livré le secret du jugement même. Et cette pointe, ce sont ces trois ou quatre mots. Notre Père, qui êtes aux cieux. Belle méditation. La musique était celle de Messian. Les enfants de Dieu extraits de la nativité. Pourquoi? Parce que nous chantons tous de la crèche au crucifiement et que nous verrons comment le dimanche de Pâques peut être une relecture du mystère de l'incarnation.